Et la semaine prochaine pour cette année, et puis on reprendra l'année prochaine le reste de la vie de David. Mais c'est vrai que ça fait penser un petit peu à nos vies, à nous. On a l'impression que les choses se tassent, que ça va bien, et pouf, il y a un nouvel événement, une nouvelle lutte, un nouveau souci. Ça peut être décourageant parfois, mais justement, l'histoire de David nous aide à... Elle est un peu comme la nôtre. Et elle nous aide à comprendre que, voilà, on peut s'en sortir avec la grâce de Dieu. On peut s'en sortir avec l'aide du Seigneur si on a la bonne attitude. Et ça, je crois que c'est ça qui me frappe le plus chez David et Jonathan aussi d'ailleurs, c'est l'attitude par rapport aux difficultés. Alors, il y a beaucoup de gens, même dans le monde, qui disent, c'est pas tellement les difficultés qui font problème, c'est la façon dont on les vit. Et c'est vrai, c'est vrai. Même des choses très, très difficiles, la façon dont on va les vivre, ça va changer vraiment tout. La façon dont on aborde les problèmes, la façon dont on les digère aussi. Et c'est vrai que c'est ça qui va faire la différence chez David par rapport à d'autres gens. Et c'est ce qui fera aussi la différence chez nous. Mais bon, les rebondissements sont nombreux. Alors, la dernière fois, on en était à Jonathan et David qui se séparent. On avait expliqué l'histoire des flèches. Donc, il avait lancé David avait lancé les flèches, Jonathan avait lancé les flèches très loin, et David avait compris qu'il fallait se séparer. Donc, ils se sont séparés en renouvelant leur alliance, et puis Jonathan avait renvoyé son serviteur pour pouvoir avoir quelques minutes, qu'il pensait peut-être être les dernières pour longtemps. En fait, vous allez voir qu'il va revenir, on verra la semaine prochaine, il va revenir voir David dans ses difficultés avec toujours la même fidélité. Mais bon, ils n'étaient pas sûrs, donc c'est les adieux en fait. Et il y a quelque chose, il y a deux ou trois points à remarquer dans leur entretien. C'est d'abord que, avant de se séparer, David tomba face contre terre, se prosternant par trois fois. C'était son copain, c'était son beau-frère. Et malgré tout, il a conscience qu'il est prince. Et il va, en toute humilité, s'incliner devant Jonathan. Alors que, bon, ils vivent des moments difficiles. Jamais David ne va oublier le respect qu'il doit aux gens. Même si les gens comme Saül sont hyper désagréables. Mais il ne va jamais oublier ça. Et même avec son ami Jonathan, il va toujours rester dans une attitude de respect. Il ne le traite pas comme un pote, il ne lui tape pas sur le ventre. Il y a toujours ce respect du prince, le respect de son ami. Et c'est frappant, parce que dans des moments comme ça, on ne s'attend pas trop à ça. Il se rappelle que Jonathan, c'est le fils du roi, et il lui rend le respect qui lui est dû. La deuxième chose qu'on remarque, c'est que leur relation, et ça c'est important, va toujours être liée à leur relation à tous les deux, à Dieu. Alors c'est... Pareil, on parle beaucoup pour le mariage, mais c'est vrai dans toutes sortes d'alliances. La corde à trois fils ne se rompt pas facilement, quand il y a le mari, la femme et Dieu. Et dans toutes les relations, c'est vrai que la présence de Dieu, c'est ça qui permet à la relation de durer. Une relation où Dieu n'est pas inclus, elle sera forcément fragile parce que nous, les humains, on est fragiles. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, baser une relation sur uniquement le côté humain, ça va forcément être fragile. Et il va falloir tous les trésors de volonté pour tenir une bonne relation avec les gens si Dieu n'est pas inclus dans la relation. Ça, c'est... On ne peut pas y couper, c'est comme ça. Parce qu'on est fragile, parce qu'on est humain, parce qu'on est changeant, parce qu'au fil des années, on change aussi. Et une amitié, par exemple, qui a bien marché pendant l'adolescence, va quelquefois s'effilocher quand on vieillit. Quand on atteint l'âge adulte, et quelquefois se retrouver plus âgé. Enfin, voilà, on est changeant, on est humain. Il faut en tenir compte, c'est pas forcément un mal, on est comme ça. Mais la seule chose qui permet une relation de durée, c'est la relation à Dieu. D'ailleurs, on a pu remarquer que Saül, lui, ne mentionne jamais la présence de Dieu. Ces derniers temps, dans les derniers textes qu'on a eus, c'est lui, c'est son règne, c'est sa volonté, c'est sa peur, c'est tout ce qu'on voulait, sa jalousie, mais il ne mentionne plus le Seigneur. Et c'est pas étonnant que les choses deviennent difficiles pour lui. Jonathan et David, malgré leur chagrin, ils savent que C'est Dieu qui conduit leur vie. Et ça, c'est important aussi. Dans des moments difficiles comme ça, ils auraient pu dire, oh là là, c'est affreux, c'est la fin du monde, c'est la fin de notre monde. On entend beaucoup ça maintenant. Eux, ils savent que Dieu conduit leur vie. Et on le sent de la part des deux. Ils ont réussi à passer au-dessus des coutumes, de leurs coutumes familiales, nationales, des allégeances humaines ou culturelles, parce que tous les deux sont conscients que Dieu les a choisis et que Dieu a un choix pour leur vie et pour leur pays. Et c'est ça qui fait la différence. Parce qu'une amitié comme ça, ça ne pouvait pas tenir longtemps sans Dieu. Ils font confiance à Dieu pour garder les termes de leur alliance. Vous avez pu remarquer chaque fois que le Seigneur soit entre toi et moi, entre ma descendance et ta descendance pour toujours. Va en paix maintenant, nous avons fait ce serment au nom du Seigneur. Toujours c'est le Seigneur qui va tenir leur alliance. C'est vrai pour les mariages, c'est vrai pour beaucoup de nos alliances. Sans Dieu, ça va faire problème parce qu'on est humain. Alors, peut-être qu'on ne comprend pas toujours ce petit dessin là que André fait avec le triangle comme ça, hein, les deux en bas et puis le trait en haut. Si on garde que les deux du bas, c'est-à-dire la mission et les objectifs, en gros, pour ceux qui se rappellent du dessin, bah c'est un peu le problème de Saül, c'est le problème de tous les humains. Si on ne tient compte que ces deux, la mission, les objectifs, ça va être difficile à tenir. Ce qui va permettre à ces deux-là de bien fonctionner, notre mission, nos objectifs, c'est celui du haut qui donne le sens, qui est l'appel de Dieu. Pourquoi est-ce que la relation entre Jonathan et David a pu fonctionner? Parce que tous les deux avaient parfaitement conscience, dans leur mission, dans leurs objectifs, c'est Dieu qui dirigeait. Ça venait d'en haut. À ce niveau-là, ça posera toujours des problèmes. Si on sait que c'est Dieu qui a appelé, que c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui donne un sens, alors le reste va en découler. Ça permet peut-être de mieux comprendre ce petit dessin qui quelquefois pose un petit peu problème. C'est vraiment l'appel de Dieu qui va permettre de tenir leur mission et leur objectif. Parce qu'en fait, dans le naturel, la mission de Jonathan et de David et les objectifs de Jonathan et David, ce n'étaient pas les mêmes. Jonathan était fils de roi, il devait être roi. David était un berger, il aurait dû rester un berger. Il est venu, il est devenu un peu garde du corps de Saül, il lui jouait de la musique pour le calmer. Il a gagné la victoire sur Goliath, mais bon, c'était un bon soldat, un bon garde du corps, un bon musicien, mais les objectifs n'étaient pas les mêmes, la mission n'était pas la même apparemment. Mais Dieu avait donné un appel, et Jonathan avait reconnu cet appel. Et c'est ça qui leur a permis de garder leur alliance. Tous les deux étaient conscients. Alors, J'ai réfléchi un peu là-dessus. La bienveillance de Jonathan envers David n'était absolument pas normale. Il ne s'agissait pas seulement d'amitié, c'est leur relation à Dieu qui a créé ça. Parce que Jonathan a compris des choses qu'il n'aurait pas dû ingérer, qu'il n'aurait pas dû comprendre. Il avait compris que l'important, c'était que la volonté de Dieu soit faite. Hein, on prie ça souvent. Hein. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais franchement, parfois, est-ce qu'on a vraiment envie que la volonté de Dieu soit faite? Ou on aimerait vraiment prier, Seigneur, que ma volonté soit faite? On est humain. Mais bon, on le dit, on essaie de s'y accrocher, que ta volonté soit faite. Donc Jonathan avait très bien compris ça. Et c'était extrêmement coûteux pour lui, parce que quand il, dans son cœur, il disait, Dieu, que ta volonté soit faite, ça voulait dire, je ne serai pas roi. C'était quand même important. Je vais décevoir mon père. Deuxièmement, il avait compris l'importance que l'œuvre de Dieu prospère en Israël. Que le plus important, ce n'était pas moi, Jonathan, mais c'était que l'œuvre de Dieu prospère en Israël. Et ça, ce n'est pas évident. Et c'est vraiment un problème pour nous au XXIe siècle, parce qu'on vit dans un siècle où tout est centré sur moi. Que ce soit les médias, que ce soit regarder Facebook, regarder les magazines, etc., les films, les séries, etc., tout est centré sur moi. Mon bien-être, mon bonheur, ma joie, ma prospérité, etc. Le groupe, quel qu'il soit, je ne parle pas seulement de l'Église, on vit dans la société. Le groupe, que ce soit une association, une école, n'importe quoi, hein, la vie de l'hôpital, pour celles qui travaillent en hôpital, etc. Le groupe, c'est plus tellement la préoccupation, ce qui était quand même différent autrefois. Maintenant, tout est centré sur soi. Mais c'est la nature humaine, de toute façon. c'est la nature humaine qui revient au galop. Et pour Jonathan, c'était que l'œuvre de Dieu prospère en Israël. C'est-à-dire, si ce n'est pas moi qui suis roi, ce n'est pas grave. Pourvu que l'œuvre de Dieu prospère en Israël. Waouh ! Ce n'est pas évident, hein, de pouvoir dire, bon, ce n'est pas grave si ce n'est pas moi qui le fais, le tout c'est que ce soit bien fait et que ce soit fait par quelqu'un qui est appelé de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Pour lui, ce qui est important, c'est que Dieu soit honoré et obéi. On sent que c'est son souci à Jonathan. On l'a vu dans ses combats, on l'a vu dans ses difficultés avec son père. Vous vous souvenez quand son père voulait le tuer parce qu'il avait contrevenu aux ordres, sans le savoir d'ailleurs. Tout ce qui compte pour lui, c'est que Dieu soit honoré et obéi. Et que le roi soit choisi et maintenu par Dieu, pas par l'hérédité. Ça, c'est fou, hein. Quand je vous dis que la Bible est à contre-courant, culturellement, c'est complètement à contre-courant. Pour l'époque, en tout cas, et même encore maintenant, hein, un roi qui abdique, c'est mal vu. Pour la génération de nos parents et grands-parents, quand c'est arrivé en Angleterre, ça en a fait des histoires. Hein, un roi qui abdique, ça ne se fait pas. Eh bien, au XXIe siècle, c'était la fin du XXe, là, c'était encore pire. Mais bon, c'était l'important que Dieu soit honoré, obéi, que le roi soit choisi et maintenu par Dieu. Jonathan avait tous ces schémas-là dans la tête. C'était un homme incroyable. Moi, j'aime beaucoup Jonathan. Je trouve... il m'époustoufle parce que vraiment, à cette époque, être capable d'aller à contre-courant comme ça, par obéissance à Dieu, c'est merveilleux. Même s'il doit renoncer à ses droits royaux, légaux, à son ego, son moi, on sent qu'il n'en a rien à faire. C'est fou, hein? À sa culture familiale et politique. Il renonce à tout ça parce qu'il a vraiment le souci que la volonté de Dieu soit faite. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, on doit travailler à ça. Je ne dis pas qu'on doit être comme ça parce qu'on devrait, mais c'est extrêmement difficile. Mais vraiment aller dans ce sens, quand on a des difficultés, quand il y a quelque chose qui nous pèse, de se dire, qu'est-ce que c'est l'important, Seigneur? C'est quoi l'important dans cette situation? C'est quoi l'important pour ce groupe, pour cette personne, pour au travail, etc. Seigneur, donne-moi tes priorités, donne-moi tes valeurs. Parce que si je juge tout à partir de moi, 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 je vais avoir une autre vue des choses. Et d'ailleurs, tout ce qui a fait avancer la société moderne, ce sont des gens qui sont passés au-delà du moi pour penser au groupe. Si vous réfléchissez un tout petit peu, si vous regardez un peu l'histoire... Dans l'histoire, chaque fois que des gens sont allés au-delà de moi, moi, mes intérêts, ma volonté, mes valeurs, mes priorités, pour aller vers le groupe, je ne parle pas de chrétiens là, à chaque fois, ça a été une bénédiction pour le pays. Et c'est toujours vrai, et c'est vrai particulièrement pour nous chrétiens. Et normalement, c'est nous qui devrions donner l'exemple. Jonathan, la Bible nous dit, rentra dans la ville. C'est curieux ce petit verset. Au début du chapitre 21, David s'en alla. Et Jonathan rentra dans la ville. David, on ne sait pas où il va. Jonathan, on sait, il retourne, pas ses moutons, mais il retourne à sa famille. Il aurait pu suivre David. Et je me suis vraiment posé la question, pourquoi il ne l'a pas fait? Puisqu'il était entièrement, de tout cœur avec David. Mais il ne l'a pas fait. Alors, je n'ai pas de réponse. J'ai entendu des pasteurs prêcher là-dessus. Et c'était Ribière, je crois. Samuel l'a connu, c'est... Christian, il avait fait un message formidable là-dessus, mais je ne suis pas très sûre. On va simplement poser des questions. Est-ce que Saül a appuyé sur le bon bouton en le considérant comme un traître à sa famille? Est-ce qu'il avait un bouton, comme on a parlé l'autre fois des boutons qu'on a, hein, si on appuie dessus, ça marche. Est-ce qu'en le considérant comme un traître à sa famille, il n'a pas appuyé sur le bon bouton? Je me pose la question. Et il ne voulait pas se montrer traître à sa famille. Parce que son cœur reste très nettement avec David, son corps va rester avec Saül. Donc le pauvre, je ne sais pas, il est un peu dans une situation difficile. Il n'a pas osé rompre avec celui que Dieu avait rejeté pour suivre celui que Dieu avait choisi. Il était pourtant conscient que Dieu avait rejeté son père. Vous allez voir la semaine prochaine, on va voir, il le dit carrément. Mais bon, sa loyauté filiale, je pense, s'est passée par-dessus, peut-être. Il aurait pu rester jusqu'au bout. Jusqu'au bout de sa vie, il aurait pu rester le bras droit de David. Ils avaient à peu près le même âge. Je pense qu'ils auraient pu faire toute leur vie ensemble. Il aurait été premier ministre. D'ailleurs, il va le dire, vous allez voir la semaine prochaine, je serai ton second. Quelle humilité. Il aurait pu rester jusqu'au bout le bras droit de David. Alors, loyauté, compassion pour son père. Ça fait mal de voir quelqu'un qui a été choisi par Dieu et qui tombe comme ça en chute libre. Probablement la compassion. Ça lui a coûté la vie, malheureusement. Mais voilà, on peut se poser des questions sur notre pauvre Jonathan. Alors, pour David, c'est autre chose. Il s'en va. La Bible dit, il s'en alla. Où ? Eh bien, il a plus aucun lieu sûr. Il n'a plus de refuge. Il a la haine meurtrière de Saül derrière lui. Ça va être une période extrêmement instable où il va connaître la peur, l'angoisse. Il va faire un peu n'importe quoi. Franchement, il va faire un peu n'importe quoi pour trouver un petit peu de sécurité. Il va le regretter d'ailleurs. Il ne voit absolument plus son chemin. Alors si ça vous arrive dans la vie de se dire « je ne sais plus où j'en suis, je ne vois plus devant moi », eh bien dites-vous qu'il est vraiment passé par pire que ça, lui, David. Parce qu'en plus, il savait que Saül n'avait qu'une idée, le tuer. C'était réglé. Donc si ça vous arrive, pensez à David, il s'en est sorti quand même. Mais c'est vrai que c'est une période très sombre, on a l'impression que c'est pourtant lui qui a écrit, je crois, le 119, où il dit « ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Mais quand on le regarde ici, on se dit « là, le pauvre, il ne voit plus rien ». Il est dans le brouillard complet, il ne sait plus, il s'en va, ils ne disent même pas où. Au chapitre suivant, donc verset 2, David se rendit à Nob chez Ahimélec, le prêtre. Alors suivant les traductions, vous avez Abimélec, Achimélec, enfin bon, vous savez qu'en hébreu c'est assez compliqué. Dans ma Bible c'est Ahimélec, mais c'est pas grave. Il se rend à Nob chez Ahimélec, le prêtre. Bon, alors là il a un réflexe qui est intéressant, il ne sait plus où aller, il va vers les serviteurs de Dieu. Il se dit là, je vais avoir de l'aide. De plus, Abimélec était le petit-fils du prêtre Élie, celui à qui Samuel avait été confié enfant, ou l'arrière-petit-fils. Donc bon, voilà, Samuel, David, Élie se dit « bon là, je suis un peu en pays de connaissance ». Mais malgré tout, il est dans la peur, il est seul et sans escorte. Et ça, ça ne se faisait pas. Il était à la cour du roi, il ne devait pas sortir sans escorte. Surtout avec les Philistins dans les environs. Et la Bible nous dit, le prêtre vint en tremblant à sa rencontre. En tremblant, le prêtre. Et il lui dit, mais pourquoi es-tu seul? Pourquoi n'y a-t-il personne avec toi? David répondit, le roi m'a donné un ordre. Il m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. Mais qu'est-ce qu'il fait, David, là? Vous vous rendez compte le niveau de... Parce que c'est un homme qui était quand même foncièrement intègre. Le niveau de peur et d'angoisse pour arriver à mentir comme ça. D'autant plus qu'il se doute bien qu'Abimélec, ou Ahimélec va deviner ou va savoir à un moment ou l'autre. Panique totale. Il ne sait plus où il est. Il dit n'importe quoi. Et il a recours au mensonge. Ce n'est pas normal qu'il soit sans escorte. Bien sûr, le prêtre, il avait deviné quelque chose d'anormal. Alors, il va le calmer. Il va le calmer en lui racontant n'importe quoi. Et certainement que pour le prêtre, ça devait être compliqué, parce que l'image qu'il avait de David, c'était le vainqueur de Goliath. Le proche de Saül, le gendre de Saül, le soldat courageux, quand il partait en campagne avec ses hommes, la Bible dit, il gagnait, pas de souci. Pourtant, les Philistins étaient des bons guerriers. Donc le prêtre, mais qu'est-ce que j'ai là en face de moi? Une loque? Je comprends que le prêtre était vachement déstabilisé, il y avait de quoi. C'était le vainqueur de Goliath, c'est pas possible. Il voit son angoisse et du coup il lui pose des questions, pourquoi? Alors David évidemment il cherche à s'en sortir, mais il va essayer de s'en sortir par lui-même. En quelque sorte il dit au roi, c'est top secret. Je suis envoyé. Il dit au prêtre, c'est top secret, le roi m'a envoyé mais je peux pas te dire. Ah, souvent quand on peut pas dire, c'est qu'il y a des choses, des agendas cachés. Et il va même mentir sur son escorte. Il dit, oui, mais ils sont là-bas. Il ment pour faire croire qu'il n'y a pas de problème avec le roi Saül. Ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que ça va causer la mort du prêtre et de sa famille. Nos mensonges ne sont pas gratuits. Ils peuvent coûter cher à soi-même et aux autres. Et puis, il ment en disant que son escorte royale l'attend quelque part. Il ne dit pas trop où. Alors qu'en fait, ce sont ses partisans, c'est les gens qui l'ont accompagné, probablement ses soldats. Et puis, il va réclamer de la nourriture au prêtre pour ses hommes. Alors là, il y a un problème, parce que le prêtre, il n'avait rien à lui donner. Et il lui dit, j'ai donné rendez-vous à mes jeunes gens à tel et tel endroit. Maintenant, qu'est-ce que tu as sous la main? Donne-moi 5 pains ou bien ce que tu pourras. Alors le prêtre, il embêtait parce que il y avait du pain, effectivement, dans ce qui tenait lieu de temple. Mais c'était un pain qui était consacré à Dieu. Il était réservé à la nourriture des prêtres et on n'avait pas le droit de le donner à des civils. Et c'était un peu ennuyeux. Bien sûr, on les remplaçait par des pains chauds le jour du sabbat. On remettait des pains frais et là, on mangeait l'ancien pain. C'est pas comme notre pain moderne, hein, il durcissait pas vite. Vous savez, les pains anciens, ils durcissaient pas comme nos petites baguettes. Il s'assure juste que bon, ils n'aient pas eu de relation avec des femmes et que il dit non, mais là on est en campagne, il y a pas de souci, on est pur. Et bon, alors ok, je vais vous donner les pains. C'est curieux parce qu'il n'aurait pas dû le faire. Et Jésus va citer cette histoire. Alors quand on nous dit que la Bible raconte n'importe quoi, surtout l'Ancien Testament, non, Jésus reprend cette histoire-là. C'est donc que Jésus la considère comme vraie. Intéressant. Il parle aussi de Jonas d'ailleurs. Jésus. Jésus va citer cette histoire et il le cite aux pharisiens en plus. Il dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Matthieu 12, versets 1 à 8. Et Jésus va développer ça parce que Jésus a eu des problèmes avec les pharisiens parce qu'il avait osé guérir des gens le jour du sabbat. Non, mais. Qu'est-ce que c'est que ça? Faire du bien le jour du sabbat? C'est pas possible. Guérir, vous voyez, mais le travail. Et Jésus va discuter avec les pharisiens en leur disant, mais vous là, dans votre loi, vous avez lu cette histoire? Comment le prêtre a donné des pains qui étaient réservés aux prêtres, qui ne devaient absolument pas être donnés à d'autres gens? Et il va leur expliquer que finalement, la loi qui régit les cérémonies, la loi cérémonielle, elle était importante, parce qu'elle avait un sens et une signification. Mais elle devait être appliquée à la lumière des principes de la loi morale. Vous vous souvenez quand Jésus leur dit, si ton âne tombe au fond d'un puits, hein, tu vas pas le laisser mourir au fond du puits, tu vas aller le chercher. Ça coûte cher, un âne. Et Jésus leur montre que la loi morale est beaucoup plus importante que la loi qui gère les cérémonies. Et alors on se dit, oh ben oui, nous, là, ça fait longtemps qu'on est passé au-dessus de ça. Ce n'est pas forcément vrai. Il ne faut pas confondre la forme et le fond, dire, mais c'est normal, hein, on est tous d'accord d'ailleurs avec ça. Mais en fait, les formes de culte, les formes de prière, les formes de sainte-cène, elles ont leur importance parce qu'elles ont un sens. Mais le plus important, c'est l'esprit dans lequel on le fait. Et on est très attaché à la forme. Regardez, nous évangéliques, on a une façon de faire la Sainte-Cène, on a une façon de prier, on a une façon. Alors même entre différentes dénominations évangéliques, on va savoir. Hein, moi, je viens des Assemblées de Dieu, donc quand j'entends quelqu'un prier de certaines manières, je dis, tiens, il est passé par les Assemblées de Dieu. Ah. Mais oui, parce que on a une façon de faire, on a une façon de parler, on a, voilà. Mais oui, mais on a des formes, qu'on le veuille ou non, on a beau être évangélique, on a des formes et on y tient à nos formes. On y tient. Et quelquefois, quand des gens ont des formes différentes, ouh, c'est pas terrible hein, ce qu'ils font. Hein. En fait, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Les lois cérémonielles, Jésus nous a bien fait comprendre, ce n'était pas ça l'important. L'important, c'est le cœur qu'on y met. Et je sais que je choque souvent les gens en disant que je raffole d'aller dans les temples réformés pour le moment de prière pour les péchés qu'on a commis. Et il y a ce merveilleux chant qui est très solennel. Si tu comptes nos iniquités éternelles, qui pourra subsister devant toi, putre. Mais quand on pense à ce qu'on dit, ça n'a plus aucune importance, la forme, même si c'est éternel, qui pourra subsister devant toi. Vous imaginez si on faisait ça ici. Mais franchement, moi, ça ne me dérange pas quand on pense à ce qu'on dit. Qu'est-ce que ça peut faire, la façon dont on le dit? Hein, même si on saute, si on peut sauter et danser en disant, Seigneur, merci, parce que tu es celui qui me pardonne, si le cœur y est, c'est OK. Et puis celui qui dit, ô éternel, qui pourrait subsister devant toi, si le cœur y est. Attention aux formes. Attention aux formes. Jésus n'était pas du tout dans les formes, dans les lois cérémonielles. Elles ont leur sens, elles ont leur importance. Mais il ne faut pas aller au-delà. Le plus important, c'est l'esprit dans lequel on accomplit les gestes extérieurs. Est-ce qu'on y met tout notre cœur ou pas? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai bien aimé ce qu'a dit Amélie ce matin. C'est important quand qu'on loue Dieu. Franchement, moi, ça m'aide de fermer les yeux et de me plonger dedans, ça je ne suis pas distraite, et de penser à ce que je chante. Et là, ce n'est pas grave si je suis devant ou au milieu, ou voilà, je ne m'occupe pas de quoi que ce soit d'autre que de Dieu. Et je vous conseille d'en faire autant, ça sera une expérience. Venez devant, n'ayez pas peur, on ne vous demande rien d'autre que vraiment fermer les yeux, rentrer à la communion avec Dieu et penser à toutes les paroles qu'on chante. Et pas au rôti qui est en train de cuire, ou à quelle heure je vais devoir partir pour ne pas être en retard, etc. Mais vraiment essayer de dire, voilà, je fixe mon attention sur les paroles que ma bouche est en train de chanter. Et souvent, quand je suis distraite, je suis facilement distraite, c'est aussi pour ça que je ferme souvent les yeux. Quand je suis distraite, je me dis, je repense à ce verset, « Ce peuple m'honneur des lèvres. » Et je pense pour moi, hein. Et je pense à autre chose, je me dis, « Oh Seigneur, c'est pas vrai. » Je me suis laissée distraire et j'ai ce verset qui me vient, « Ce peuple m'honore des lèvres. » Oh non, Seigneur, c'est pas possible. Donc voilà, donc je vous encourage aussi à vous concentrer sur les paroles que vous chantez le matin. Et n'ayez pas peur de venir devant. Ça sera une expérience, on ne vous demande pas de sauter, de danser, de faire quoi que ce soit. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais que vraiment... Et je suis sûre que les gens qui rentreront, ils verront la différence. Si tout ce qu'on est aujourd'hui, on rentre vraiment et on pense à chaque parole... Peut-être qu'il y en a qu'on n'osera pas prononcer d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave, c'est entre vous et Dieu. Mais si on pense vraiment à chaque parole, je crois que l'ambiance générale du culte sera différente. C'était une petite aparté. Mais voilà, donc Jésus était très à cheval là-dessus. Les lois cérémonielles doivent être exercées à la lumière des principes de la loi morale, des lois bibliques, etc. Alors là, il y a un drame. Pendant qu'il discute avec le prêtre et qu'il lui demande à manger, etc., David, le gros malin, il voit un Édomite qui est là, qui s'appelle Doeg, et qui écoute visiblement avec beaucoup d'intérêt ce qui est en train de se passer. Et là, moi je suis un petit peu furax contre David, parce qu'il est conscient qu'il est en train de faire une grosse bêtise. Il est conscient, il le dit, hein, à un autre moment. Il se dit, oh là là, celui-là, il va tout raconter à Saül. Alors c'est un peu comme dans les films. Je trouve cette scène, elle me fait vraiment penser à certains films où vous avez l'espion qui est là, qui a l'air de rien, avec son imper et son chapeau. Et puis, il est en train de tout capter pour détruire ce que le gars est en train de faire. Et détruire le gars avec, si possible. Il y a un méchant. Il reconnaît le héros et on sait que ça va créer des problèmes. Il y a une tension dans ce texte. Quand il dit « Or, ce même jour, un homme de la cour de Saül était retenu là, devant le Seigneur, on ne sait pas trop pourquoi. C'était un Édomite nommé Doeg, le chef des bergers de Saül. » Voilà, vous voyez la tension qui se détourne vers cet homme. Et aïe, 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 on sent que ça va créer des problèmes. C'est pire que ça d'ailleurs. Il le voit. Mais voyez, David est tellement dans la peur qu'il va demander, au lieu de se dire « je vais faire quelque chose », il va demander des armes maintenant. Après avoir demandé à manger, il demande des armes. Et il va lui donner, le prêtre va lui donner l'épée de Goliath. Et il lui donne comme raison « l'affaire du roi était tellement pressante que je n'ai avec moi ni mon épée ni mes armes. » Alors là, c'est une phrase à double sens. L'affaire du roi était effectivement pressante. Il n'avait qu'une idée, c'était de me tuer. J'ai même pas le temps de prendre mes armes. Donc c'est pas faux. Mais bon, il savait très bien que le prêtre comprenait autre chose. Et il lui dit, bah, écoute, là, il y a l'épée de Goliath qui est enveloppée, je vais te la donner. Et évidemment, Doeg, l'Édomite, il a regardé ça avec beaucoup d'intérêt pour tout raconter à Saül. Il avait le temps de réagir, mais il était tellement dans la peur qu'il va même faire pire en demandant une arme. Au lieu de s'arrêter et de dire « Attends, garde tes pains, je ne veux rien avoir avec toi et je m'en vais. » Il aurait pu sauver la vie de cet homme et de toute sa famille. L'épée, je me demande ce que ça lui a fait à David quand il a vu arriver l'épée de Goliath. Lui, il était au fond du trou, il ne voyait plus rien, brouillard complet, il est mort de peur, d'angoisse, il ne sait plus du tout ce qui va lui arriver. Et qu'est-ce qu'on lui donne ? L'épée de Goliath, ce n'est pas un hasard. C'était un symbole dingue, ça aurait dû lui parler quand même. C'était la victoire du plus faible sur le plus fort, du petit berger sur le grand soldat, de l'enfant de Dieu sur le païen, de celui qui respecte Dieu sur celui qui se moque de Dieu. Mais apparemment, David a pris l'épée, il est parti, dans la peur, et ça ne lui a rien dit de plus. Pourtant, c'était un message puissant que Dieu envoyait à David. Dieu voulait lui dire, avec mon aide, il y a quelque temps, tu as vaincu un géant qui faisait trembler toute l'armée d'Israël. Cette énorme épée qui était destinée à te couper en petits morceaux pour nourrir les bêtes des champs, ce que lui avait dit Goliath, hein, tu t'en es servi pour tuer celui qui te menaçait, toi et ton peuple. C'est ça le message. Ton Dieu qui a guidé la pierre de ta fronde, ce Dieu qui t'a oint pour devenir roi, qui t'a protégé des attaques des Philistins, et Dieu sait qu'il en a fait des guerres contre les Philistins, ton Dieu n'a pas changé. Il est toujours capable de te délivrer. Je crois que c'est ce que Dieu vous dit ce matin, si vous êtes dans une situation un peu comme celle de David, et qui vous montre les victoires passées. Vous savez, parfois, il y a une image qui revient, et vous dit, mais attends, ce même Dieu qui t'a aidé là, il est capable de te délivrer. Ton Dieu n'a pas changé, il est toujours capable de te délivrer. Et il te délivrerait beaucoup mieux que toi-même avec tes mensonges. C'est sûr. Là, il s'englue, le pauvre David. Et alors là, vous dites, ça va s'arranger. Ben non, ça va empirer. Là, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Ça m'a trotté dans la tête toute la semaine. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Ce jour-là, le même jour, David s'enfuit. Bon, ça c'est normal. Pour échapper à Saül, c'est logique. Et il arriva chez Achish, roi de Gath. Mais quelle idée! Où est-ce qu'il va se cacher? Chez les Philistins. Non mais il n'avait plus sa tête. Il a tué leur champion. Non mais, vous croyez quand même, hein? On se dit, mais qu'est-ce qui lui prend? Vous imaginez le degré de peur et d'angoisse? Il réfléchit même plus correctement. Parce que la peur l'a saisi. Vous savez, la peur est mauvaise conseillère, c'est comme la colère. Et quand on réagit sur nos peurs, qu'est-ce qu'on peut faire comme bêtise? Qu'est-ce qu'on peut croire comme ânerie? Aller croire que les Philistins allaient le protéger? Non, mais je rêve. Nous, alors là, on voit ça, hein, avec combien 3 millénaires d'écart. Donc on se dit, mais c'est pas vrai. Mais bon, est-ce que nous, ça nous arrive pas aussi? Quand on a été déçus particulièrement des chrétiens, parce que les chrétiens sont des gens très décevants, parce que ce sont des humains. Ce n'est pas des robots, ce n'est pas des martiens, ce sont des humains. Donc les chrétiens sont extrêmement décevants parce qu'ils sont humains. Voilà. Il se trouve que les gens du monde sont aussi décevants parce qu'ils sont humains, mais bon, comme on attend beaucoup plus des chrétiens, on est choqué quand ils sont décevants. Mais ils sont décevants. C'est pour ça que Dieu dit « Malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. » Et entre nous, on se confie ensemble dans l'Éternel. On s'entraide au mieux les uns les autres, mais on sera toujours décevants parce qu'on est humains. Et donc, quand on est bien déçu des chrétiens, alors on ne voit plus que leurs défauts. C'est assez facile, parce qu'on en a beaucoup. On ne voit plus que leurs défauts, puis ça commence à prendre toute la place. Et on se dit, eh bien, on va aller chez les Philistins. Là, au moins, qu'est-ce qu'on va être bien. Bon, et c'est exactement ce qu'a fait David. Je vais chez les Philistins. Là, ils vont me protéger. Saül, quand même, le roi oint par Dieu, blablabla. Mais les gens l'ont reconnu, pensez. Ils se rappelaient du jour où il avait coupé la tête de Goliath. Hein. Ils avaient son visage bien photographié. Hein. Et pas de doute. Les gens de la cour d'Achish lui dirent, n'est-ce pas là David, le roi du pays? Ah, ils le voyaient déjà roi, eux. Ils avaient du discernement, hein, plus que... n'est-ce pas celui... Aïe, aïe, le revoilà ce chant. N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a battu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Ah, en voilà un chant qui fait du raffut, encore une fois. Ça a gâché la vie de Saül, et ce chant va encore gâcher la vie de David. Comment est-ce qu'il peut se croire en sécurité avec les ennemis de l'Éternel? Est-ce qu'on peut pactiser avec l'ennemi quand ça nous arrange, tout en restant fidèle au Seigneur? C'est comme si pendant la guerre de tranchées, il y a un gars qui se serait fâché avec ses copains de tranchée, puis il serait allé se réfugier dans la tranchée allemande en face. Alors, ça nous fait rigoler, mais c'est exactement ce qu'on fait quand on dit oh, « les chrétiens, il y en a marre ». Puis ça nous arrive tous un jour ou l'autre, hein. Soyons honnêtes, il n'y a pas que moi quand même. Et un jour ou l'autre, on dit oh, « il y en a marre, hein. Parfois les non-chrétiens, ils se comportent mieux ». Ben, c'est vrai, parce que parfois, ils se comportent mieux, comme les chrétiens aussi, parfois, se comportent mieux, d'ailleurs. Mais voilà. Et là, on va se réfugier dans la tranchée d'en face. Et c'est exactement ce que fait David. Il va se réfugier dans la tranchée d'en face, mais il est vite reconnu, parce qu'il n'est pas pareil. Probablement qu'ils avaient des vêtements légèrement différents. Puis, souvenez bien de son visage. Il n'avait pas les mêmes valeurs, les mêmes façons de réagir. Alors, il faut faire attention quand on change de côté comme ça, parce que le réveil risque d'être brutal. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais Marie et Joseph, est-ce qu'ils n'ont pas emmené Jésus en Égypte pour fuir Hérode ? Mais je vous rappellerai que c'était un ordre du Seigneur. Ce n'était pas une vengeance ou un problème d'amertume. Ou parce qu'ils en avaient envie. En fait, ils n'en avaient pas envie, parce que la vie d'immigrés en Égypte, ça n'a pas dû être très à leur goût tous les jours. Ils ont laissé derrière eux l'atelier de charpentier, la maison, tout. Ça ne devait pas être évident, avec un bébé, partir comme ça, à pied, avec un petit âne en Égypte, et refaire sa vie, retrouver du boulot. En tant que charpentier, je pense que Joseph a pas eu trop de mal à trouver du travail, mais ça n'a pas dû être très amusant. Mais c'était un ordre de Dieu. C'est vrai, alors là, je suis d'accord que parfois le Seigneur va utiliser des non-croyants sur notre chemin. Amen. Pour nous aider, pour nous sortir d'un mauvais pas. Ça arrive à tout le monde. Je suis sûre que si je demandais des témoignages, on en aurait plein. Dire, ah oui, le Seigneur a permis que je rencontre cette personne, qui est que... Mais c'est différent quand Dieu va volontairement utiliser quelqu'un pour nous sortir d'affaires et quand c'est notre décision, au lieu de chercher le secours du Seigneur. Voyez la différence. J'ai un énorme problème, je me fâche, j'en ai marre de Dieu, de l'Église, des chrétiens, etc. Et je vais décider d'aller de l'autre côté. Ça, c'est complètement différent de quand Dieu dit « Oh là là, t'as vraiment des problèmes, écoute, j'ai personne sous la main, mais ce non-chrétien-là, il va t'aider. » Et puis on est étonnés. On a tous vécu des situations fantastiques où des non-chrétiens nous ont bénis de façon extraordinaire. Et on les a bénis en retour. Et le Seigneur les a bénis en retour. Mais ce n'est pas la même chose quand c'est parce que je refuse de chercher le secours du Seigneur ou quand c'est le Seigneur qui a disposé les choses devant moi. Vous voyez la différence. Donc attention de ne pas en faire une règle, parce qu'aller dans la tranchée d'en face, c'est un peu dangereux. Et pour David, c'est extrêmement risqué. Les gens, évidemment, l'ont reconnu, ils l'ont ramené au roi. N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait ? Alors je disais, ce chant a fait le malheur de David avec Saül, et il va encore faire son malheur à la cour des Philistins. Et ce n'est pas étonnant, parce que si vous remarquez ce chant, je pense que je l'ai déjà dit peut-être la dernière fois, mais je me répète, vous le savez bien, Saül a battu ses milliers, David ses dizaines de milliers, il n'y a aucune mention de Dieu. Rien. Il n'a même pas dit « Dieu a permis que » ou « Dieu a aidé ». Non. Saül, David, David, Saül. Et chaque fois qu'on célèbre la gloire de l'homme avant la gloire de Dieu, ou au lieu, ça ne peut qu'attirer des ennuis. Et c'est tout le problème de la vantardise. C'est un peu amusant parfois, on se vante de toujours réussir quelque chose. Ça vous est jamais arrivé ? Moi, j'ai jamais raté une mayonnaise, ou bien j'ai jamais raté le gâteau au chocolat. Et ce jour-là, pan. Ah, vous l'avez tous vécu ce genre de truc. C'est curieux, la vantardise, même dans les détails de la vie, ça vous fiche tout en l'air. Je pense pas que ce soit totalement un hasard. Bon, il y a peut-être des ressorts psychologiques qui jouent, mais c'est quand même curieux ça. Chaque fois qu'on se vante de quelque chose, c'est là qu'on se plante. Si André veut me montrer quelque chose de super à l'ordinateur, suffit que j'approche, l'ordinateur refuse de fonctionner. Ça, c'est autre chose, c'est moi qui le détraque, oui, d'accord. Mais l'ennemi, je crois quand même si c'est un peu amusant ce que je dis là, mais je crois que l'ennemi se régale de notre vantardise. C'est une nourriture fantastique pour lui, et c'est encore plus grave dans le domaine spirituel. La conférence RNC à laquelle on n'a pas pu aller parce qu'on avait Simon Polite, donc André a dit, oh là là, il faut écouter parce que sinon Jean-Marc ne va pas être content, là il arrive bientôt, il faut qu'on écoute la conférence, et elle est absolument géniale d'ailleurs. Si vous pouvez l'écouter, c'est bien. Et c'est un pasteur australien qui dit avec beaucoup de justesse que malheureusement, les médias chrétiens sont tombés dans une telle vantardise qu'ils ont transformé la culture chrétienne en une sous-culture. Alors, ça serait un peu long à expliquer, mais c'est tellement vrai. C'est très difficile de faire la différence entre je glorifie Dieu en racontant ces hauts faits et je me vante que j'ai eu telle bénédiction, telle guérison, telle résurrection, etc. La limite est tellement fine. Et puis on a vite fait de passer de l'autre côté. Et en croyant honorer Dieu, on finit par se vanter. Dieu m'a donné 200 guérisons, Dieu m'a donné. Oh. Et ça m'a fait penser un peu ce chant. Hein. Saül a vaincu ses milliers, David, c'est... Non, Dieu a remporté la victoire. Jamais David n'aurait eu telle victoire si Dieu n'était pas derrière lui. Saül avait été envoyé par Dieu. Rappelez-vous ce gars qui était timide, qui se planquait derrière les bagages. Dieu l'a vraiment rempli de son esprit pour avoir la victoire. Donc c'est à Dieu que revient l'honneur. Tout ce que je peux faire, c'est grâce à Dieu. Vous savez, on s'en aperçoit quand on tombe malade. On se dit, oh là là, je ne peux plus faire ci, Ah oui, parce que Dieu te donne la santé, tu peux faire des tas de choses. Donc, soyons vraiment prudents par rapport à la vantardise, et pas seulement pour la mayonnaise et le gâteau au chocolat. Ça, je crois que c'est des détails, mais attention, parce que c'est vraiment la recette pour, comme disent les Anglais, « recipe for disaster ». La recette pour arriver à un désastre, c'est de se vanter. Aïe, aïe, aïe. Alors là, notre pauvre David, à la cour des Philistins, qu'est-ce qui lui reste? Non mais, David, il simula la folie sous leurs yeux. Il fit des extravagances parmi eux. Il faisait des marques sur les battants des portes. Il aurait été bien dans nos rues, là. Hein, il aurait pu faire ses tags, et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Le mensonge, voilà où ça mène. Il a voulu s'en sortir par lui-même. Se cacher, se protéger, mentir, raconter n'importe quoi. Eh bien, il descend. Vous savez, on dit toujours un mensonge entraîne un autre. Les gens qui mentent, ils le savent très bien. On dit un premier mensonge, pour soutenir le premier, on en fait un deuxième. Pour soutenir le deuxième, on est obligé d'en faire un troisième. Et puis après, c'est fini. Et c'est difficile d'en sortir. Et là, il est là, il a tellement bien menti, qu'il finit par se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et quand on en arrive là, c'est dangereux. Parce qu'on frôle la schizophrénie. On va se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, pour une autre personne. Et malheureusement, combien de gens font ça? Dans la famille, avec les amis, au travail, dans le club de sport, même à l'église. Être soi-même, reconnaître ses limites et chercher à progresser, c'est la recette du succès. Et là, David a fait tout le contraire. Il n'a pas pu être lui-même. Il n'a pas eu la force de s'approcher de Dieu pour confesser qui il est, qu'il n'en pouvait plus, qu'il est arrivé au bout du rouleau. Il a cherché à se débrouiller par lui-même. Et mensonge, finalement même se comporter comme un fou. Alors, ce qui devrait nous encourager, parce que ça c'est plutôt décourageant, c'est de se dire, Dieu est quand même capable de dire, cet homme est un homme selon mon cœur. Un homme qui est pourtant tombé bien bas. Vous voyez que Dieu ne regarde pas nos chutes, il regarde comment on va se relever. Et il va se relever. Et je crois que c'est le mensonge de l'ennemi, c'est de vous dire, t'as vu où t'en es arrivé? T'as vu où t'en es? T'as vu ce que t'as dit? T'as vu ce que t'as fait? T'as vu les dégâts? Ben dis donc, comment tu vas t'en sortir maintenant? Hein, t'es vraiment au fond du trou, hein? Je savais bien. Et répondez-lui, Dieu va me tirer de là. Parce qu'il est tout puissant. Moi, effectivement, je ne vaux pas grand-chose. Je suis hyper limitée, j'ai fait des tas de bêtises, mais Dieu va me tirer de là. Et ce qui est merveilleux, c'est que de cet épisode, Dieu ne parle pas. Il parle de David comme un homme sur son cœur. Et le pire, c'est que Jésus se présente comme fils de David. Amen. Ouais. Exactement. Vous vous rendez compte? Ce type qui est allé baver chez les Philistins, non, je ne peux pas croire. Je m'imagine la scène, hein. Aïe, aïe, aïe. Pauvre David. David n'avait rien à gagner et il a dû perdre beaucoup de respect en cherchant la protection des Philistins, en faisant le fou pour se sortir d'affaire. Et du coup, il faut encore fuir. Et alors là, je ne sais pas ce que vous avez comme titre sur votre Bible, mais sur la mienne, on arrive au chapitre 22. David devient chef de bande. Ah ben nous voilà bien, ça ne s'arrange pas. Ah là là, David devient chef de bande. David va se réfugier dans une grotte. Alors j'ai regardé un petit peu, c'est au nord de Jérusalem. Ses frères et sa 3 kilomètres à peu près. C'est une zone où il y a énormément de cavernes. Et d'après l'histoire, je me suis renseignée, ce sont des cavernes énormes où on pouvait vraiment mettre beaucoup de monde. Et elles sont sur un flanc de montagne et il y en a beaucoup, beaucoup. Donc on ne sait pas laquelle, dans laquelle il était, parce qu'il y en a qui sont amusés à chercher. Mais c'est un endroit où il y en a effectivement beaucoup et des très grandes cavernes. Alors il y a quelque chose qui fait plaisir là. David partit de là et se réfugia dans la grotte d'Adoulam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et descendirent l'y rejoindre. Waouh ! Il a de la famille, il pense à lui. Ses frères qui n'arrêtaient pas de se moquer de lui, là. Ouais, toi, le petit gamin, là. Ça a dû changer après la victoire de Goliath, je pense. La victoire sur Goliath. Et malheureusement, je ne pense pas que le verset soit très positif. Ça veut dire que David et sa famille étaient poursuivis au même titre et qu'ils ne pouvaient plus rester là où ils étaient. Ses frères et sa famille l'apprirent et descendirent lui rejoindre. Je pense qu'eux aussi avaient besoin. Parce que vous savez, dans ce temps-là, quand on en voulait à quelqu'un, on ne se contentait pas de le tuer lui, on faisait passer au fil de l'épée toute la famille, y compris les bébés. C'était charmant. Alors, qu'est-ce qui va le rejoindre, à part ses frères et toute sa famille ? C'est terrible. Tous ceux qui se trouvaient dans le désarroi, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Il y eut avec lui environ 400 hommes. Il y avait pas mal de mécontents. Mais c'est quand même, pour commencer un royaume, vous allez me dire, c'est pas quand même la joie. Des gens en détresse, des gens dans les dettes, et puis des mécontents. Oui, 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 pauvre David, 400 personnes comme ça. Il y a de quoi rendre fou. Et c'est comme ça qu'il va commencer. Il va remonter la pente avec ça. Alors, c'est quand même un groupe plutôt disparate. Il a fallu qu'il gère ça avec sagesse. Hein. Vous imaginez gérer autant de gens, se faire respecter, surtout après ce qu'il venait de faire, éviter les exactions et les violences, parce qu'on remarquera qu'il tient assez bien sa troupe pour pas qu'il pille, comme faisaient les troupes de soldats à l'époque. Hein. Ils ne s'embêtaient pas, ils n'avaient pas de salaire, ils pillaient partout où ils passaient. Il a toujours fait attention à ça, il a demandé, vous le verrez après, demandé de la nourriture aux gens, etc. Mais il a évité qu'il y ait des pillages. Il tient cette troupe en main, et ils s'arrangent pour pourvoir à leurs besoins. Alors là, j'ai réfléchi, je dis, mais Dieu l'avait oint pour être roi d'un pays, Israël, prospère et vaillant. Un pays quand même qui avait de l'importance à l'époque. Et il se retrouve fuyard à la tête d'une troupe de malheureux, de soldats, de fuyards en tout genre. Quel début de règne, quelle cour royale, quelle gloire. Et parfois dans la vie, on dit, mais je ne comprends pas, Dieu m'avait promis ça, ça et ça. Dans la parole, il y a les promesses de Dieu pour ça, ça et ça. Mais qu'est-ce que j'ai là ? Des fuyards, des endettés, des mécontents. Seigneur, vraiment, tu m'avais promis des tas de choses et puis je ne suis pas en chemin pour les avoir. Ben si, ça a été l'apprentissage du futur roi. Une troupe complètement disparate, de gens un peu enragés, toutes sortes, et il va apprendre à bien tenir ces gens. À en prendre soin. Avant de nous faire entrer dans notre destinée, parfois Dieu nous place dans des situations étranges, qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'il nous avait promis. Et on se dit, Seigneur, je perds mon temps. Au lieu de dire, Seigneur, je ne comprends pas du tout, mais allons-y, je ferai du mieux que je pourrai. Et je crois que si ça vous arrive, et là je pense aussi aux jeunes, parce que parfois on passe au niveau de la carrière, ou de ça, dans des périodes où on se dit, mais ce n'est pas du tout... Ce pourquoi j'ai des talents, vous croyez que David avait des talents pour gérer des mécontents et des entêtés, des endettés, peut-être entêtés aussi d'ailleurs. Vous croyez qu'il avait des talents pour ça ? Non, il avait des talents de soldat, il avait des talents pour plein d'autres choses, de musicien, mais pas pour gérer une troupe de gens comme ça. Et parfois on se dit, on est jeune, on a des diplômes, etc. Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais de tout ce que tu m'as donné ? Je suis complètement à côté de la plaque. Non. Si Dieu l'a permis... Continuez à chercher Dieu. Continuez à chercher Dieu. Il a un plan. Il a toujours une idée derrière la tête. toujours, toujours, toujours. Et ça peut faire partie de la préparation, même si on pense que ça n'a rien à voir. Je crois que David n'aurait pas été le roi qu'il a été s'il n'avait pas vécu ces temps de proximité avec des gens difficiles, certainement très pénibles. Mais ça faisait partie de sa préparation. Alors je pensais aux photos, je ne sais pas pourquoi, je pensais aux photos, quand vous regardez un livre de cuisine, vous voyez le super gâteau, magnifique. Et puis après, il y a le comment faire en petite photo, là. Moi, j'aime bien ça. On voit toutes les étapes. Bah, franchement, les étapes, elles sont pas, c'est pas très joli. Même ils essaient de faire des belles photos avec de la belle vaisselle et puis une jolie nappe et tout. Mais en fait, si vous regardez dans le saladier, le mélange de farine et de cacao, c'est pas très ragoûtant, etc. Mais n'empêche que, au bout, il y a le gâteau. Mais si vous regardez la façon de faire, c'est pas toujours très joli. Et je crois que c'est un petit peu, enfin c'est l'image qui m'est venue quand j'ai lu ça. La préparation, c'est pas toujours très joli, ça nous plaît pas toujours, mais c'est une préparation efficace. On y arrivera au beau gâteau, on y arrivera au bout, et David va y arriver. Et il y a une chose, avant de terminer, que je voudrais souligner, c'est que David, contrairement à Saül, vous allez voir Saül tout à l'heure, bon, pas tout à l'heure, mais la semaine prochaine, David, lui, il rentre pas dans la pitié de soi. Alors là, je sais pas comment il a fait, parce qu'il avait eu très peur, il rentrait en angoisse, le mensonge, simuler la folie. Là, il remonte la pente, en allant se cacher dans la grotte, il commence à remonter la pente. Il ne rentre pas dans la pitié de soi, ni dans les protestations. Alors, comment je le sais? C'est parce qu'il faut regarder les psaumes. Alors, je crois que j'avais mis les numéros des psaumes qui correspondent à ces épisodes-là. Non, tiens, je pensais les avoir mis là. Je vous les redonnerai la prochaine. Ah oui, le psaume 34. Et puis après, il y en a un autre pour... quand il s'échappe chez les Philistins. Quand vous regardez, il n'est pas trop dans la pitié de soi ou dans les protestations. Il va procéder avec sagesse et ordre. Il a un plan d'action. Ça y est, il commence à rentrer en sa destinée. Il a un plan d'action. Ça, c'est un bon signe, parce que son plan d'action chez les Philistins, c'est pas génial. Mais là, il a un plan d'action très raisonnable. Il se ressaisit. Après ces deux expériences de fuite qui étaient catastrophiques, il va se ressaisir. La première chose qui montre qu'il s'est ressaisi, c'est quoi? Eh bien, il va se préoccuper de sa famille. Il va aller confier ses parents, donc c'est toute sa famille, ses frères et ses parents, au roi de Moab. Et là, vous allez me dire, ah ben ça y est, mais ça, chez les ennemis. Réfléchissez. Qui est-ce qui était moabite dans la famille de David? Ruth, son arrière-grand-mère. Ça, c'était pas une fuite chez les Philistins. D'abord, les Moabites étaient différents. Et c'est, je crois, ce qui est l'équivalent de la Jordanie, je crois. Et oui, parce qu'ils sont à l'Est. Il va confier sa famille au roi de Moab. Ils ont sans doute gardé des liens avec les oncles et tantes, les cousins. Et il va les laisser là-bas jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. C'est-à-dire, je ne sais toujours pas le plan de Dieu. Et là, on en est souvent là dans notre vie. Moi, je ne sais pas ce que Dieu veut faire de moi. Alors là, je pense que quand on est jeune, c'est le cas. Mais qu'est-ce que Dieu va faire de moi? Mais il va laisser sa famille jusqu'à ce qu'il sache ce que Dieu fera de lui. Il est dans le brouillard, mais là, vous avez vu, on n'avait pas beaucoup eu de mention du Seigneur, même pas du tout. Là, on voit deux textes qui changent. Il dit carrément, jusqu'à ce que Dieu, je sache ce que Dieu fera de moi. Il remonte la pente. Première chose, il prend soin de sa famille. Même s'il est dans le brouillard, il reconnaît maintenant que tout est entre les mains de Dieu. Ce qui n'était pas le cas à Nob ou à Agathe. Dans les deux cas, il était perdu. Ça y est, il a remonté la pente. Il pense que Dieu est là, Dieu tient les choses en main. Il le dit carrément à sa famille. Et la deuxième chose qui est rassurante, vous voyez qu'il remonte la pente, il garde un contact étroit avec le prophète Gad. On n'avait pas entendu parler de lui avant. Mais c'est un prophète avec qui il va avoir de bonnes relations pendant longtemps et il va suivre ses conseils. On va voir qu'il y a un moment où Gad va le voir et lui dit « Il faut quitter cette caverne et il faut que tu retournes au pays de Juda, dans ta propre tribu. » Et il va obéir, il ne discute plus. Il a compris que le succès, la protection, ça vient de Dieu. Et Il a remonté la pente. Je ne voulais pas vous laisser sur une note négative. Il remonte la pente. Prend soin de sa famille. Il a un plan d'action. Et il sent que Dieu dirige les choses. Il a remonté la pente et on verra ça la semaine prochaine.